Chapitre 42. Falaise du Sirdaria, Kazakhstan. Je vous écoute.
Plus loin, un peu plus loin, marchons.
Ossian avança lentement sur ses deux jambes fatiguées, aidé de sa canne, longeant la rivière qui serpentait dans la montagne entre les deux falaises. Chaque pierre était un obstacle sur lequel il pouvait rouler à tout moment. Il avançait pourtant, déterminé. Lilio lui emboîta le pas, en silence, attendant que l'idéologue se lance. Les dernières paroles de Cléo tournaient en boucle dans sa tête. Et si quelques-uns des assignés dérapent, tirent dans le tas, se font sauter au milieu de la foule? Dans son plan parfaitement agencé, bizarrement, il n'avait pas anticipé cette terrifiante possibilité. Il était maintenant trop tard pour reculer. Il avait dévoilé son trésor aux assignés, ses centaines de TPC entassés dans son sac. Même s'il refusait de leur confier, rien ne les empêcherait de se servir. Quelle autre issue lui restait-il? Les détruire? Lilio baissa les yeux vers l'eau glacée qui courait entre les rochers. Il lui aurait suffi de balancer son sac dans le torrent, et tout aurait été terminé. Il ne fit rien, et continua de suivre Ossian. La lueur de la lune éclairait les dernières habitations troglodytes. Lorsqu'ils furent suffisamment éloignés, le vieil idéologue s'arrêta et prit enfin la parole.
« Je voulais d'abord vous remercier, monsieur de Castro. Vous avez été le seul journaliste, parmi tous ceux qui possèdent un peu d'influence, à publier un compte-rendu de droit du sang. »
Lilio se souvenait. C'était une critique sans complaisance. Comme toujours, il avait préféré informer les lecteurs de l'Independiente Planète plutôt que de faire comme si ce livre n'existait pas. L'essai politique d'Ossian avait beau être officiellement interdit, des versions pirates circulaient un peu partout. Dans son compte rendu, Lilio avait essayé d'attirer l'attention sur ce qu'il avait cru lire entre les lignes. Un appel à ce que d'autres avaient qualifié, bien avant Ossian, de « choc des civilisations ». L'idée que les progrès de l'humanité ne pouvaient s'opérer que par une émulation mortifère entre les empires, entre les grandes religions, entre les aires d'influence linguistique, guerre, colonisation, génocide. C'était, selon Ossian, le seul moteur du monde. Une civilisation remplaçait l'autre. Quand un empire déclinait, un autre, plus neuf, plus créatif, le remplaçait. Mais au-delà de cette théorie sordide, justifiant les pires massacres qu'avait connus l'humanité, Lilio s'était attaché à démontrer à quel point l'idéologie d'Ossian lui semblait inspirée par une profonde névrose, une folie morbide, par la paranoïa maladive d'un génie en mal de reconnaissance. Il avait consacré un long paragraphe à la carrière politique avortée d'Ossian, sa rivalité avec Galiléo Nemrod, la chute progressive de sa cote de popularité dans l'Ecclésia jusqu'à ne plus représenter que lui-même. Et s'il avait fini par être exilé avec les autres prisonniers politiques, la plupart des nationalistes sincères se méfiaient eux aussi de lui. Ils l'avaient clairement ressenti.
« Ce n'était pas un compte rendu très élogieux, » tempéra Lilio.
La lune était tombée dans le torrent et, entraînée par le courant, rebondissait de pierre en pierre.
« Bien au contraire, monsieur de Castro. Votre prose était tellement injurieuse qu'un nombre incalculable de lecteurs ont voulu se procurer ce livre. Je ne vous remercierai jamais assez. »
Lilio n'aimait pas la façon dont Ossian maniait l'ironie. Il n'aimait pas se promener ainsi avec lui en pleine nuit. « Venez-en au fait, Ossian. Qu'avez-vous à me dire ? J'ai peu dormi les nuits dernières. La journée de demain sera longue entre les manifestations des assignés et la cérémonie du centenaire. Je dois me reposer. » Ossian s'arrêta, laissa tremper le bout de sa canne dans la rivière en déviant légèrement le flux.
« Justement, monsieur de Castro. Parlez-moi de cette cérémonie du centenaire, cette nouvelle Babel. Ce bon vieux Galiléo a toujours eu des idées étonnantes. Les informations fiables sont rares à nous parvenir jusqu'ici. »
Voilà où Ossian voulait en venir, la nouvelle Babel. Lilio répondit avec le plus de fermeté possible. « J'ai déjà tout dit à l'Assemblée, tout ce que je sais, c'est-à-dire rien de plus que ce qu'en connaît chaque habitant sur cette planète. » Ossian toussa. L'idéologue paraissait fatigué, voûté, mais ce n'était peut-être qu'une feinte pour inspirer une forme de pitié. Il avait l'âge de Nemrod, un président en parfaite santé.
« Savez-vous, monsieur de Castro, qu'avant de me lancer dans la politique au sein du Congrès mondial, j'étais ingénieur, comme Galiléo Nemrod, comme tous ceux de notre génération. Le pouvoir appartenait aux savants. Est-ce aujourd'hui véritablement différent? C'est de détails techniques que j'aimerais vous parler. Le principe de la nouvelle Babel, que l'humanité entière s'entasse sur un caillou de l'Atlantique, pourquoi pas, si ce bon vieux Galiléo y croit. Mais cela suppose une intendance assez considérable, des capacités d'accueil à anticiper, une énergie sans précédent à déployer, des règles précises de sécurité. « Je ne sais rien de plus, » coupa Lilio. « Désolé. » Ossian enfonça plus profondément sa canne dans la rivière. Il semblait tracer dans l'eau des signes cabalistiques que lui seul comprenait. Il fut traversé d'un bref rire qui se transforma en une lente toux qu'il peina à contrôler.
« Que c'est flatteur, monsieur de Castro. Vous vous méfiez. Vous vous méfiez de moi. Bon, c'est trop d'honneur, vraiment. Un vieillard impotent, isolé, mis en minorité par ses propres partisans. Un tribun qu'on laisse radoter. Ne soyez pas inquiet. »
Lilio ne répondit rien. Ossian avait trop d'estime de lui-même pour que cet acte de contrition soit sincère. D'ailleurs, l'idéologue continua.
« Vous l'êtes, pourtant, n'est-ce pas, monsieur de Castro ? Inquiet, et pas à cause de moi. Vous allez armer des terriens que les forces de l'ordre de notre bonne vieille planète ont pris tant de soin à neutraliser. Vous vous demandez si vous n'avez pas commis la pire sottise de votre jeune vie. Alors écoutez-moi, Lilio. Cette petite promenade nocturne va au moins servir à vous rassurer. Plus personne aujourd'hui n'est capable de mourir pour la patrie, et encore moins de se faire exploser pour une cause qu'il juge plus importante que sa vie. Ce serait aussi ridicule que de demander à des jeunes gens de prendre un fusil pour éviter qu'on modifie les frontières de leur pays. Ce genre de sacrifice est fini. Galiléo Nemrod a gagné. Tout ce qui n'appartient pas à quelqu'un appartient à tous les terriens. Quelle formule implacable. Qu'y a-t-il encore à défendre aujourd'hui, à part sa propre peau? Une terre, un peuple, une langue et 10 milliards d'abrutis. Oh, les êtres humains n'étaient pas moins abrutis avant, mais quelque chose les dépassait, et tout à la fois les rassemblait. Une spiritualité, un destin commun, un passé. Nous sommes devenus des fourmis, monsieur de Castro. Des insectes qui s'agitent, naissent, vivent, meurent. Pour rien.
Lilio s'impatienta. Il avait parlé de sa fatigue pour se débarrasser de ce vieux fou, mais pas seulement, il était réellement épuisé. « J'ai lu votre livre, Ossian. Je connais votre théorie. Vous avez raison. Je suis rassuré, les assignés ne représentent aucun danger, je vais me coucher. »«
La terre n'est plus qu'une termitière !»
continuait Ossian comme s'il ne l'avait pas écouté.
« Chaque terrien se fiche de ce que le monde a été avant lui et de ce qu'il sera après. Seul compte l'immédiateté. L'immédiateté et l'ubiquité. Le temps et l'espace ont été abolis. Savez-vous ce que cela signifie? La fin de l'histoire, tout simplement. La terre entière s'est moquée du déclin de mes idées dans l'Ecclésia. Tout le monde pense que j'ai échoué. Mais comment aurais-je pu lutter contre la lente agonie de l'humanité?
Il leva les yeux vers la lune, si ronde et lumineuse dans la nuit kazakh qu'on pouvait distinguer les taches sombres de ses cratères.
« Je crois, » ajouta-t-il, il est temps d'abréger ses souffrances.
Lilio leva également les yeux, sans comprendre.
Après tout, ça ne sera qu'une étoile qui s'éteint, il y en a d'autres.
Le journaliste fixait toujours la voûte céleste, perturbé par la prophétie d'Ossian. La douleur fracassa sa raison. Il comprit, une fraction de seconde trop tard, que la canne d'Ossian venait de s'abattre sur son crâne. Il tenta de recoller ses pensées éparpillées pour au moins que son cerveau puisse ordonner un geste, un mouvement de défense, une tentative de fuite. La canne le frappa une seconde fois. Il s'écroula. Ossian écouta de longues secondes le silence de la nuit, pour être certain que personne n'ait rien entendu. Il tira, autant qu'il le put, le corps inanimé du journaliste, le plus à l'écart possible de la rivière. Il ne voulait pas que cet idiot se noie. Il pourrait encore avoir besoin de lui. Il se pencha, ouvrit le sac qui pendait au dos de De Castro, fouilla et, au hasard, choisit un TPC. Il se contenta de le glisser dans sa poche, sans l'accrocher à son poignet.
Il était conscient qu'il lui faudrait des heures et des heures de marche pour rejoindre sa nouvelle destination. Comment l'appeler ? La nouvelle Sodome ? Dans son état de fatigue, il n'était pas certain d'y parvenir. Mais quitter le Kazakhstan puis utiliser ce TPC sitôt la frontière passée aurait été le moyen le plus sûr de se faire repérer. Les ingénieurs de Pangaïa devaient traquer tout mouvement inhabituel dans les alentours. Ce TPC clandestin ne lui servirait que quand tout serait terminé. Cette nuit, il irait à pied. Il y arriverait. Peut-être même avant que le soleil soit levé. Nemrod avait commis une erreur, sa seule erreur. L'exilé, lui, Ossian, aussi près. À moins de 50 kilomètres de la nouvelle Sodome.